Vous écoutez, on lit pour vous.
La FN travaille à renforcer les capacités des femmes francophones du territoire. Un texte de Karine Lavoie, paru le 22 janvier 2025 dans le Nunavoie. Marcy Yen, ministre des Femmes et de l'Égalité des Genres et de la Jeunesse, a annoncé le 8 décembre 2024 l'octroi d'un montant pouvant atteindre 11,77 millions de dollars pour 16 projets qui soutiennent les femmes dans les communautés nordiques du pays. De ce montant, l'Association des francophones du Nunavut, AFN, se voit attribuer 506 250 dollars. Octroyé sur une période de 2 ans. Cet investissement vient officialiser pour l'AFN un projet débuté en avril 2024 qui a comme objectif de renforcer les capacités des membres féminines de l'AFN ainsi que celles de l'organisation. Cela se traduit notamment par le partage d'informations sur les droits et l'accessibilité des ressources en français, par des occasions de rencontres et de collaboration entre femmes, ainsi que par la création de liens avec les autres organismes féministes au niveau territorial et pancanadien. La subvention permettra aussi de proposer des formations au sein de l'organisation et de réviser les politiques internes permettant à l'AFN de devenir un modèle dans le domaine. Cerner les besoins. Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans des changements systémiques qui permettent aux femmes de prospérer économiquement et socialement. Lorsque les femmes dans le Nord ont les possibilités et les ressources nécessaires pour réussir, les familles ressentent les bienfaits et les communautés en ressortent plus fortes. Ensemble, nous travaillons pour créer un avenir où chaque femme a la possibilité d'atteindre tout son potentiel, peu importe où qu'elle vive, dit Marcy Yen. La somme remise à l'AFN fait en sorte que le travail de Samia Salomon, chargée de projet pour l'organisation depuis janvier 2025, soit entièrement dédié à mettre de l'avant des initiatives pour faire progresser l'égalité de genre et développer une expertise dans le domaine. Un sondage est présentement disponible concernant les défis et les besoins des femmes francophones sur tout le territoire, et ce, peu importe leur âge et leur réalité. On a mandaté une firme pour dresser un portrait des femmes francophones au Nunavut. Par le biais du sondage, administré aux membres de la communauté, mais aussi par des entrevues puis des tables rondes, nous avons voulu voir ce que les femmes de la communauté ont besoin. Comment est-ce qu'on peut appuyer en ce sens et comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en place? On veut vraiment avoir un portrait global, explique Marie-France Talbot, gestionnaire du centre de formation Kyujimanik. Le besoin de se rencontrer est l'un des principaux enjeux qui est ressorti de ce sondage. Une des problématiques les plus fortes, c'est l'isolement. Les femmes nous disent « On a envie de faire des activités entre femmes pour échanger, discuter, sortir de la monotonie ou de la routine avec les enfants et d'avoir un petit moment pour soi », dit Marie-France Talbot. Selon la gestionnaire, de telles occasions de rencontre permettent d'élargir son réseau et de se faire guider vers des ressources possiblement méconnues. Elle souligne aussi que les membres féminines francophones du Nunavut ont vraiment une belle solidarité avec les autres femmes du territoire et expriment le désir de les appuyer. Un dîner pour cuisiner des rouleaux de printemps, un souper dégustation-création, des cours d'autodéfense et le photo-voix sont des exemples d'activités réalisées jusqu'à maintenant. Des occasions de faire des activités entre femmes, résume Marie-France Talbot. Des besoins en formation, tant au niveau personnel que professionnel, ont aussi été formulés à travers le sondage, ce à quoi l'AFN s'engage à répondre en offrant un enseignement bimodal pour permettre aux résidentes à l'extérieur d'Iqaluit d'y participer. La mise en place d'un comité de femmes qui se rencontrera de façon régulière est prévue au cours de l'hiver 2025. Un projet pan-territorial. Déterminée à donner une plus grande place aux femmes, l'AFN participe également au projet pan-territorial. Des changements systémiques pour renforcer le rôle des femmes dans les communautés francophones du Nord. Sur une période de 3 ans, l'AFN collaborera avec la Fédération franco-ténoise, FFT, et les Essentiels, au Yukon, pour renforcer la sécurité économique et la prospérité des femmes francophones, ainsi que leur accès à des postes de responsabilité et de décision au sein des 3 territoires canadiens. L'un des objectifs du projet est d'établir un portrait des femmes francophones aspirant ou occupant des rôles de leadership pour identifier les enjeux socio-économiques et structurels auxquels elles font face. Cela permettra aussi d'aller à la rencontre des organismes francophones qu'ils désirent afin d'intégrer des recommandations spécifiques et des outils sur la question du genre. On veut augmenter les capacités de nos organisations francophones pour aider les femmes francophones à exprimer leur plein potentiel, conclut Marie-France Talbot. C'était « L'AFN travaille à renforcer les capacités des femmes francophones du territoire », un texte de Karine Lavoie, paru le 22 janvier 2025 dans le Nunavoie.
Attention, hypertension, 5 habitudes de vie à éviter, un texte de Joanne Martin, paru le 17 décembre 2024 dans Virage. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, près d'une personne sur deux âgée de 65 ans et plus, 46 %, souffre d'hypertension. Ce facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires est l'une des conditions chroniques les plus fréquentes dans la province. Mais que faut-il éviter pour prévenir ces complications? Puisqu'elle participe à l'apparition d'autres complications, l'hypertension est appelée « tueur silencieux ». Par exemple, elle augmente les risques d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux et d'insuffisance rénale, explique Guillaume Tremblay, kinésiologue au Centre Jean-Jacques Gauthier, une clinique montréalaise spécialisée dans la gestion des maladies chroniques. L'expert précise que, si les causes exactes de l'hypertension sont encore mal comprises, plusieurs facteurs de risque contribuent à son développement. L'hypertension découle souvent d'habitudes de vie qui s'entretiennent mutuellement. Bien que des facteurs comme l'âge soient inévitables, de nombreux autres peuvent être contrôlés. Avec une médication adaptée et des changements d'habitude, on peut réduire les complications tout en améliorant significativement la qualité de vie. Habitude favorisant l'hypertension. 1. Un régime alimentaire riche en sel et en gras saturés. Le sel ou sodium joue un rôle clé dans l'hypertension. Une consommation excessive provoque une rétention d'eau, augmentant le volume sanguin et la pression sur les parois des artères. L'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter la consommation de sel à moins de 5 grammes par jour. Quant aux gras saturés présents dans la viande, les produits laitiers et les aliments frits, il contribue à l'élévation du mauvais cholestérol. Cette situation favorise l'accumulation de plaques dans les artères, réduisant leur élasticité et augmentant la pression artérielle. 2. Le manque d'exercice. Même en vieillissant, il n'est jamais trop tard pour adopter de saines habitudes, dont l'activité physique, insiste Guillaume Tremblay. Bouger 30 minutes par jour et pratiquer un peu de musculation aide à prévenir l'hypertension. La sédentarité favorise la prise de poids et affaiblit le système cardiovasculaire. L'exercice régulier renforce le cœur, maintient la souplesse des artères et diminue la pression artérielle. Le stress chronique. Le stress chronique, souvent sous-estimé, est un autre facteur clé. Il déclenche la libération d'hormones, comme l'adrénaline et le cortisol, qui augmentent temporairement la pression artérielle. Lorsque le stress persiste, ces élévations deviennent permanentes. Il est crucial d'apprendre à gérer son stress à l'aide de techniques adaptées, de soutien psychologique si nécessaire et d'un sommeil suffisant, souligne Guillaume Tremblay. 4. La consommation d'alcool. Un excès d'alcool est directement lié à une augmentation de la pression artérielle. Il perturbe les mécanismes de régulation des fluides corporels, provoquant une rétention de sodium et d'eau. Éduc Alcool recommande de ne pas dépasser 2 verres par jour pour les femmes, maximum 10 par semaine, et 3 pour les hommes, maximum 15 par semaine. Le tabac. Le tabac, quant à lui, est un destructeur avéré de la santé cardiovasculaire. Il durcit les artères, favorise l'accumulation de plaques et élève ainsi la pression artérielle. Le tabagisme est mauvais pour de nombreuses maladies, y compris l'hypertension, rappelle le kinésiologue. Définition et repères. L'hypertension correspond à la pression du sang sur les parois des vaisseaux sanguins, exprimée en millimètres de mercure. Cette pression est mesurée en 2 valeurs. La pression systolique, chiffre supérieur, lorsqu'un battement de cœur pompe le sang. La pression diastolique, chiffre inférieur, quand le cœur est au repos entre 2 battements. Une pression normale est définie comme 120 sur 80 mm de mercure. Lorsque les mesures répétées atteignent ou dépassent 140 sur 90 mm de mercure, on parle d'hypertension, explique Guillaume Tremblay. Chez les personnes diabétiques, de plus en plus nombreuses avec l'âge, l'hypertension est diagnostiquée dès 130 sur 80 mm de mercure. C'était Attention hypertension, 5 habitudes de vie à éviter, un texte de Joanne Martin, paru le 17 décembre 2024 dans Virage.
Embellir la mort au quotidien. Un texte de Caroline Montpetit paru le 29 janvier 2025 dans Le Devoir. Tout le monde a une histoire, dit-on. S'inspirant du concept danois de la bibliothèque humaine, Le Devoir poursuit une série de portraits de livres vivants qu'on emprunte le temps qu'ils nous racontent leur vie. Aujourd'hui, Yves Légaré. Yves Légaré n'a jamais vu une âme renaître de ses cendres, mais après plus de 50 ans dans le commerce des pompes funèbres, il connaît tout du processus qui entoure la mort, du décès à la mise en terre ou à la mise en cendres. Yves Légaré est le petit-fils d'Alfred Dallaire qui a fondé l'entreprise du même nom en 1931. Des morts, il en a sûrement vu passer des centaines, voire des milliers. Des morts douces, des morts violentes, des morts jeunes, des suicides, des maladies, des meurtres. Et ce, depuis son enfance, quand il descendait subrepticement dans le salon du sous-sol de la maison familiale qui faisait office de salon funéraire. On habitait sur la rue Ontario, au 2e étage, se souvient-il. Le salon funéraire était en bas, au rez-de-chaussée, puis dans le sous-sol. Dans le garage, il y avait la salle d'embaumement. Jeune, je pouvais descendre, passer par le bureau. Il avait un grand corridor et, ensuite, j'allais voir ce qui se passait là. C'était avant que le salon soit ouvert. Je descendais quand c'était fermé, à l'occasion. J'avais une curiosité, j'allais voir. Dans le garage où se faisait l'embaumement, il regardait sans entrer, parce que c'est impressionnant, surtout quand il y a une autopsie et que le corps est ouvert. À 15 ans, il travaillait à l'entreprise en allant chercher les corps. Il a ensuite suivi un cours de thanatologie avant de devenir gestionnaire. Il apprend, entre autres, à fermer les yeux des défunts et à coudre leur bouche. C'est sûr que ça a toujours été un peu tabou, la mort, mais ça l'est moins aujourd'hui. C'est un peu comme les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Il y a des gens qui seraient incapables de le faire, qui ont peur de ça. Et il y en a d'autres qui travaillent. Il faut sentir qu'on est quand même capable de fonctionner, qu'on ne se mettra pas à faire des cauchemars ou à ne plus être capable de manger. Vivre avant tout. S'il avait une conclusion à tirer de ses années de service auprès des défunts et de leurs proches, c'est qu'il faut profiter de chaque instant de la vie. Dans son bureau du complexe funéraire Yves Légaré à Laval, il montre l'appareil avec lequel il prend des photos de voyage. Et au mur, une vaste toile de Marc Chatel, offerte pour son anniversaire, détaille les moments clés de sa vie. À l'entrée de son bureau, une armoire en forme de sarcophage offerte par sa femme, des statuettes de momies et des corbillards de cortège miniatures glanés dans des brocantes, dont un landau comme ceux qui accueillaient un assortiment de couronnes de fleurs. On appelait ça des portes du ciel, se souvient-il. C'est par une sorte de hasard que son grand-père, Alfred Dallaire, a épousé la vocation d'entrepreneur de pompes funèbres. Natif de Saint-Narcisse, l'ancêtre a déménagé à Québec, puis à Montréal. Ne sachant ni lire ni écrire, il a fait 100 métiers avant d'ouvrir un salon de barbier dans la métropole, en plus d'offrir des services de taxi occasionnels à la maison funéraire Sans Regret, à deux pas de chez lui. Il s'occupait un peu de funérailles avec sa voiture, et je pense qu'il a commencé à apprendre comment ça se passait, raconte Yves Légaré. Un jour, une jeune Ukrainienne est victime d'un accident mortel. Mon grand-père était en contact avec beaucoup de gens de la paroisse. On lui a demandé s'il pouvait aider. Sa famille n'avait pas d'argent pour payer les funérailles. Ça a créé un lien avec la communauté ukrainienne et polonaise, et c'est comme ça que ça a commencé. Après le choc de la mort, la prise en charge des corps apaise les proches. À l'époque, les funérailles se déroulaient dans les maisons. L'embaumement se faisait carrément dans les résidences avec la machine à gravité qui remplace le sang par des fluides, dit-il. L'exiguïté des appartements crée un besoin pour l'ouverture de salons funéraires. Encore aujourd'hui, dans les petits villages du Québec, tu regardes le clocher, tu vas trouver le salon en face, à côté ou pas loin. Alfred Dallaire divise alors son salon de barbier en deux. D'un côté le coiffeur, de l'autre le salon. Chez Dallaire, son épouse Aline et leur fille unique, Thérèse, mettent aussi la main à la pâte. En tentant de vendre des assurances au père, Paul-Émile Légaré rencontre la fille. En l'épousant, il se rapproche peu à peu de l'entreprise familiale dont il finira par prendre les rênes. Sous sa gouverne, les activités funéraires seront regroupées dans des complexes comme on les connaît aujourd'hui. Il lance aussi le concept des arrangements funéraires préalables. Trois de ses enfants, Yves, Jocelyne et Alain, ont plus tard repris les affaires. Les os en dernier. Mais les rites funéraires n'ont pas cessé de changer au fil du temps. Au milieu des années 1960, la crémation était encore interdite par l'Église catholique. Aujourd'hui, autour de 80% des gens se font incinérer, constate-t-il, même si certaines familles plus traditionnelles, notamment d'origine italienne ou grecque, choisissent encore d'enterrer les corps embaumés. Dans le four, dont on voit les deux cheminées pointées vers le ciel, les corps mettent environ 2 heures à brûler. Ce sont les os qui brûlent en dernier. L'âme, envolée. Côtoyer la mort tous les jours n'a jamais convaincu Yves Légaré qu'il y avait un au-delà. À l'inverse, il n'y a jamais personne qui nous a dit qu'une personne décédée était revenue leur en parler. À 68 ans, lui-même n'a pas encore fait d'arrangement funéraire. Ça ne l'inquiète pas beaucoup. Je suis pas mal sûr de me retrouver dans mes affaires, dit-il en souriant. C'était « Embellir la mort au quotidien », un texte de Caroline Monpetit paru le 29 janvier 2025 dans Le Devoir.
Cri du cœur pour le Musée des ondes, Émile Berliner. Un texte d'Émilie Côté paru le 11 février 2025 dans La Presse. C'est un musée que tout mélomane devrait visiter, mais qui en arrache financièrement. Nous sommes dans un lieu historique étroitement lié au fait que Montréal est devenu une plaque tournante dans l'industrie de la musique, affirme sa directrice, Anja Bork. Le Musée des ondes Émile Berliner, MOEB, est situé dans Saint-Henri, au sein de l'édifice qui appartenait autrefois à l'entreprise RCA Victor, qui y a aussi fait construire un légendaire studio. C'est aussi là qu'a été conçu le premier satellite canadien, mais on saute des étapes. Par où commencer? Par rappeler qui est Émile Berliner, soit l'inventeur du gramophone. C'est à Montréal que l'Américain d'origine allemande a fait construire en 1908 une usine au coin des rues Saint-Antoine et Lenoir. On lui doit l'ancêtre des tourne-disques, mais aussi la création du disque plat et de la matrice pour les imprimer, explique Anja Bork. Il a inventé le processus de presser massivement des disques à partir d'un master recording. Avant, l'accès aux œuvres musicales des grands orchestres ou des opéras était réservé aux gens fortunés qui pouvaient se payer des billets de concert. Du jour au lendemain, les gens pouvaient écouter la musique qu'ils voulaient dans leur salon. C'était révolutionnaire, rappelle Anja Bork. Le musée est un trésor et son importance est internationale, dit-elle. Son potentiel est énorme. Montréal pourrait tirer avantage de commémorer une industrie qui a changé la vie de tout le monde. C'est l'histoire de la démocratisation de la musique. Pourquoi Berliner a-t-il choisi Montréal? Notamment pour protéger son brevet et pour ses bonnes relations avec Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone qui avait aussi une usine dans le sud-ouest de Montréal. Du contenu pour le contenant. Si les gens pouvaient écouter de la musique chez eux, il leur fallait donc des enregistrements. Herbert, le fils d'Émile Berliner, croyait beaucoup au talent local québécois, à la fois devant et derrière la console. Il a fondé en 1918 la société Compo et il a plus tard acquis les disques Star. Avec Roméo Baudry à la tête de la section francophone, ils ont endisqué des légendes comme Hector Pellerin, La Bolduc et Soldat Lebrun. Plus tard, Compo sera vendu à Decca, elle-même acquise en 1963 par MCA Records. Quant à l'entreprise de Berliner Père, elle a été vendue en 1924 à RCA, qui fusionnera avec Radio Corporation of Canada pour devenir RCA Victor, où on produisait entre autres des radios. Le grand studio du même nom, le premier au Canada à bénéficier de murs acoustiques polycylindriques, sera construit en 1943 pour y accueillir des vedettes montréalaises comme Alice Robbie et Oscar Peterson. De la musique à l'exploration spatiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on y développera un laboratoire de recherche secret pour le développement des technologies radar et sonar, souligne Anja Bork. Cette expertise servira dans les années 1960 à créer le premier satellite canadien, Alouette 1, qui se démarquera par sa longévité. Après une révolution musicale, on assistera donc à Montréal à une révolution spatiale. RCA a quitté l'édifice en 1978, mais son studio a rouvert en 1985 sous la bonne gouverne de Gaétan Pilon. De grandes vedettes internationales et québécoises ont produit des albums dans ce qu'on a appelé pendant 30 ans le studio Victor. Or, le studio existe toujours, comme nous l'avons raconté en décembre 2024 dans un reportage sur des musiciens amateurs qui y répètent avec Montreal Jam. Un musée qui lutte pour son existence. Le MOEB est dans le même édifice depuis 1996. Nous sommes toujours un peu en lutte pour rester ouverts, peut-être plus que jamais, lance Anja Bork, qui avait comme directeur de thèse de doctorat Jean Bellil, l'un des cofondateurs du musée. C'est vraiment un lieu important pour Montréal et le Québec, poursuit-elle. Il y a une raison pour laquelle la musique d'ici se distingue des autres. Les artistes avaient accès à la technologie pour enregistrer. Pour son occupation des lieux, le MOEB bénéficie d'une entente avantageuse avec son propriétaire, soit le gestionnaire de bureau Allied. Mais depuis 2024, le musée ne bénéficie plus de l'aide de 20 000 $ qu'il avait de la ville de Montréal et de son arrondissement. Le musée doit aussi déménager d'ici mars une grande partie de sa collection de 30 000 objets qui comprend 24 téléviseurs mécaniques. Bref, ça va mal. Même que depuis quelques mois, sa directrice, Anja Bork, travaille pratiquement de façon bénévole. Vu ses maigres moyens, le musée fait des miracles. Avis aux intéressés. Le billet d'entrée ne coûte que 8 $ pour un adulte et on peut actuellement y voir une exposition temporaire sur la place des femmes dans l'industrie musicale à Montréal. On y entend des entrevues avec des femmes qui travaillaient pour RCA. Et on y rappelle que la violoniste Ethel Stark a été chef d'orchestre et qu'elle s'est produite à Carnegie Hall avec The Montreal Women's Symphony, soit le premier orchestre 100% féminin en Amérique du Nord. Anja Bork lance un cri du cœur pour du soutien financier ou pour de la commandite privée. Avec 100 000 $ par année, nous pourrions facilement poursuivre nos activités et même en offrir plus au public. Notre collection a tellement de potentiel. C'était « Cri du cœur pour le musée des ondes Émile Berliner », un texte d'Émilie Côté paru le 11 février 2025 dans La Presse.